Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. Rien. Rien qu'une terre plate, battue par les vents. Elle était seule sur cette île déserte et caillouteuse. Elle sentit soudain une légère vibration sous les paumes de ses mains. Était-ce l'île qui vibrait ou bien son propre corps? Elle avait eu si peur, oui si peur quand l'affreux serpent Python l'avait pourchassée, si peur jusqu'à ce que Boré, le dieu du vent du nord, la dépose sur cette île qui flottait sur l'océan comme un bateau. Instinctivement, la jeune femme posa les mains sur son ventre arrondi et elle sourit. Ce qui vibrait ainsi doucement n'était pas la terre, c'était l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Il donnait de petits coups de pied, de petits coups de poing, signe qu'il souhaitait voir le jour.
Bonjour Muriel Zach.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et romancière, surnommée la déesse des feuilletons par un certain nombre d'enfants qui ont lu avec avidité et passion ou qui se sont fait lire, comme vous venez de le faire, vos feuilletons mythologiques. La mythologie grecque en 100 épisodes, c'est donc une série de feuilletons que vous nous proposez depuis maintenant un certain nombre d'années. Le quatrième volet vient tout juste de sortir, le feuilleton d'Artémis. Il suit Thésée, Ulysse et Hermès, et ça commence toujours comme vous nous l'avez lu. Ça commence toujours comme ça, le soleil se levait à peine. Pourquoi? C'est un rituel que vous vous donnez à vous ou c'est une forme d'habitude nécessaire pour commencer l'écriture de ces feuilletons?
C'est un rituel que je me donne à moi, oui. Mais un clin d'œil pour mes lecteurs. Parce que mes lecteurs, quand ils connaissent Hermès, ils sont heureux de le retrouver. C'est un petit signe de complicité. Il y en a pas mal dans le livre, des petits échos entre les livres. On peut lire les livres séparément, mais voilà, ces petits échos-là, c'est notre complicité à nous, mes lecteurs et moi.
Vous lisez à voix haute. Vous avez d'ailleurs enregistré le feuilleton d'Artémis. On en entendra un extrait lu par vous-même, d'ailleurs, hein, tout à l'heure. Mais vous lisez à voix haute. C'est fait pour être lu à voix haute, ces mythologies grecques en épisode?
Oui, c'est vraiment le projet. L'oralité, c'était comme ça que c'était raconté les mythes autrefois. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment une lecture qui soit la plus fluide possible, la plus agréable, la plus facile aussi pour les parents et même certains enseignants qui parfois hésitent, se disent c'est difficile de lire à voix haute. Et du coup, là, j'essaye d'avoir une écriture qui coule, qui rentre dans l'oreille et qui soit à la fois musicale et simple à comprendre.
Racontez-nous, quand même, Muriel Zach, comment sont nés ces feuilletons mythologiques, de quelle envie, de quelle nécessité. On ne peut pas dire qu'on en manque de récits mythologiques déjà dans la littérature. Alors pourquoi vous vous êtes collé à cet exercice-là?
Oh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai voulu prévoir un texte qui s'adresse à toutes les tranches d'âge. Parce que oui, vous avez raison, on ne manque pas de texte, hein, mais souvent c'est plus difficile d'accès pour les plus jeunes. Ou bien alors, je trouvais que dans la mythologie, quand on voulait la raconter aux plus jeunes, on l'édulcorait. Or, raconter la mythologie en l'édulcorant, ça ne sert à rien, c'est pas nécessaire. Donc j'avais déjà ce désir de remettre à disposition des enfants les plus jeunes et aussi de pouvoir ne pas perdre en route les plus grands et puis les adultes. Donc ça, c'était le projet, parce que je crois que les mythes, ça s'adresse à tout le monde, depuis qu'on a 5 ans jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça, c'était le premier projet. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que je crois que les mythes portent des questions fabuleuses, mais aussi des questions existentielles profondes qui sont tellement utiles pour aujourd'hui, tellement contemporaines, que j'avais envie de pouvoir me faire un peu l'entremetteuse, la passeuse entre les dieux, les héros, les questions fondamentales sur le bien, la vie, la mort, l'amour, toutes ces questions essentielles, d'où viennent les choses, de comment est né le monde, toutes ces questions-là sont éclaircies avec les réponses fabuleuses de la mythologie. J'avais envie d'être la passeuse entre ces histoires et les enfants et les adultes.
Vous baignez dedans, de toute façon, Muriel Zach, depuis un certain nombre d'années vous-même. Puis vous ne nous dites pas tout, hein, parce que vous avez aussi deux chats qui portent pour prénom Apollon et Artémis. Et puis vous avez une maison en Crète. Donc c'est un peu une obsession chez vous, quand même, tout ça.
la Grèce, j'ai parfois l'impression qu'elle remonte par les racines. Vous voyez, mes racines à moi, je suis allée les chercher là-bas, même si ce n'est pas des racines de naissance. C'est une terre d'hospitalité. J'y été accueillis, oui. Et mes chats, Artémis et Apollon, ils sont arrivés dans la maison au moment où j'ai commencé à écrire Artémis. Parce que vous savez, les chats, ils sont comme, peut-être comme Artémis et ses amis, et peut-être comme les Grecs, c'est-à-dire ils sont libres. En Grèce, ils choisissent leur maison, c'est pas nous qui les choisissons. Donc ma chatte Artémis, elle est arrivée dans la maison le jour où j'ai commencé à écrire ce feuilleton.
Il y a un livre qu'on vous a lu ou que vous avez lu quand vous étiez petite fille, que vous aimiez particulièrement, qui était chez Nathan, qui était les contes et légendes du monde grec. Monde grec et barbare d'ailleurs. Hein,
oui, je crois monde titre, grec et barbare.
On ne dirait plus aujourd'hui, je crois, comme ça. Contes et légendes du monde grec et barbare. C'est quelque chose que vous aviez envie de retrouver justement en écrivant ces feuilletons mythologiques à votre tour.
Je crois que j'avais envie de retrouver cet émerveillement que j'ai eu enfant, hein, parce que quand on faisait les légendes du monde grec et barbare, j'ai dû lire ça, j'avais à peu près 8 ans. Mais je me souviens très bien que quand je le lisais, j'avais un problème, c'est que tout en étant émerveillée, c'est que je me disais, mais ce personnage-là, ce dieu-là, on l'a déjà vu dans cette histoire-là. Et là, dans le cheval de Troie, il se passe ça. Mais j'essayais de faire des liens. Et c'est aussi une des choses qui m'a tenue dès le début de cette aventure des feuilletons. C'est finalement de relier tout ça, de prendre un fil conducteur pour ne pas se perdre dans cette foule de dieux, dans cette foule d'histoires. Et quand j'étais petite, j'adorais ces histoires, mais j'essayais de les relier entre elles, de mettre du sens.
Ce serait quoi le fil conducteur alors de vos récits à vous ?
Alors moi, à chaque fois, mon fil conducteur, c'est de partir d'un personnage et de ne jamais le lâcher. C'est-à-dire que chacun des 100 épisodes, dans chacun des 4 livres, on vit les aventures avec le personnage. Et ça n'est pas du propos rapporté extérieur, et donc le personnage lui-même, eh bien, il s'étonne en même temps que nous, il se questionne, il est touché, il est ému, il est en colère, et en fait, il traverse ces histoires-là. Donc c'est comme une vaste famille, par exemple la famille des dieux, c'est quand même... Et donc il va retrouver se confronter à sa belle-mère, s'il s'agit d'Artémis par exemple, se confronter à Hera, ou bien s'allier avec sa sœur Athéna, se disputer avec sa tante Aphrodite.
C'est voilà. Ce qui rend l'épopée aussi vivante. Et d'ailleurs, c'est un succès considérable, hein. Près de 300 000 exemplaires de la trilogie ont été vendus. Comment expliquez-vous que ça marche autant ? Alors, c'est difficile de vous demander ça, évidemment, à l'auteur. Mais est-ce que vous avez quand même une idée d'interprétation du succès, notamment auprès des enfants, hein, qui raffolent de vos textes ?
C'est vrai que c'est difficile pour moi de le dire, mais je pense que...
Peut-être qu'ils vous disent des choses, eux.
Je crois qu'en fait, moi, je les prends toujours au sérieux, les enfants, quel que soit ce que je fais dans mon métier, et qu'ils aiment ça. C'est-à-dire que quand je les écoute parler, les enfants, ils me parlent des dieux et des héros comme des amis qu'ils ont. Je leur permets, je crois, avec cette lecture, d'entrer de plein pied dans cet univers, comme s'ils en faisaient partie. Et cet écho des questions profondes qu'ils ont, face notamment à la brutalité du monde parfois, à la violence de certaines situations autour d'eux, eh bien, c'est comme si c'était des éponges, les enfants. Ce que vivent les héros et les dieux, ils les absorbent et ils en font leur miel. Alors c'est vrai qu'il y a un attachement incroyable qui me réjouit. Hein. C'est un bonheur. Depuis que Artémis est sorti, j'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup de lecteurs, et cette manière qu'ils ont de venir me parler de leur petit bout de chemin ensemble avec les dieux, c'est merveilleux. Et puis je crois que l'autre point commun, c'est, j'entends beaucoup hein, les familles me dire le bonheur qu'ils ont à avoir partagé ensemble. Parce que vous savez, il n'y a pas beaucoup de textes qu'on peut partager quand on a des enfants qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, ils partagent tous ensemble. Les parents aussi, le papa, la maman, quand ils sont ensemble, ils ont envie de le lire avec leurs enfants ensemble. Donc en fait, c'est aussi ces moments qu'ils ont vécu, qu'on vient me raconter en ce moment, à l'occasion de la sortie du 4e. Moi, ça me touche, ça m'émeut beaucoup, et je suis très heureuse de ça.
Vous en prévoyez beaucoup, comme ça, c'est le 4e, mais combien va-t-il y en avoir ? Autant que de dieux et de déesses de l'Apollon ?
Alors, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on me le demande énormément en ce moment, alors quand le prochain ? En fait, chacun d'entre eux s'est imposé à partir d'une thématique dont j'avais envie de parler. Par exemple, quand j'ai fait Ulysse...
Le fil conducteur, oui. C'est le personnage, mais le point de départ, c'est une thématique.
Oui, c'est un désir. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est un désir de parler de quelque chose dont on a besoin aujourd'hui dans le monde tel qu'il est.
On reprend Hermès, Thésée et Ulysse avant de parler d'Artémis, par exemple.
Eh bien, par exemple, pour moi, Thésée, il y avait deux points forts. Thésée, le labyrinthe, c'est accepter de se tromper pour sortir d'un endroit. Si vous ne revenez pas sur vos pas dans un labyrinthe, alors vous êtes perdu, vous restez à jamais. Or, on est dans un monde où les enfants, il faut toujours qu'ils aient tout juste, tout de suite. Et parfois, ils refusent presque d'apprendre parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc montrer ça. Et puis pour Thésée, j'avais envie de montrer aussi ce monsieur muscle qui est Héraclès, hein, qui tape, qui réfléchit après, qui a que des ennuis dans la vie. Et que finalement, peut-être que taper, la violence, c'est pas la première des priorités. Ulysse, J'ai eu envie de parler d'Ulysse parce que c'est le premier des migrants qui se retrouve naufragé en Méditerranée et que c'était un contresens de penser qu'il était heureux de partir en voyage. Voilà, donc c'était une actualité là aussi pour moi fondamentale.
Est-ce qu'il y a des partis pris quand vous racontez vos histoires, une façon de regarder? Alors, par exemple, vous parlez d'Ulysse à l'instant. Comment voyez-vous Ulysse dans votre feuilleton Muriel Zach? Est-ce que vous le voyez comme un héros? Est-ce que vous le voyez justement comme un des premiers migrants, un exilé errant en mer? Mais ça pourrait en faire un héros quand même. Certaines analyses, certains regards sur Ulysse en font un anti-héros. Donc quel a été le vôtre?
Mais pour moi, les grands héros, et notamment les grands héros de la guerre de Troie, parce qu'Achille en fait partie, ce sont des grands héros parce qu'ils pleurent. Achille pleure tout le temps. C'est pour ça que c'est un grand héros, pas seulement parce qu'il sait se battre devant les murailles de Troie. Et Ulysse, pour moi, c'est effectivement un grand héros, parce que d'abord, et j'ai commencé le livre comme ça, il ne voulait pas partir à la guerre. Ulysse aux mille ruses, la première énorme ruse qu'il rate, il essaye de ne pas partir, il essaye de se faire passer pour fou, pour pas qu'on l'emmène à la guerre. Il veut rester avec sa femme et son fils. Et malheureusement, il est démasqué et il part à cette guerre de Troie. Donc, l'imaginer en train de caracoler au devant des aventures, pour moi, c'était un contresens. De même que Pénélope, c'est fusionnel avec Ulysse. Il n'y a pas d'Odyssée sans Pénélope. C'est elle qui est gardienne de la mémoire. C'est elle qui l'attend et qui empêche qu'on l'oublie. Qui empêche que, finalement, il ne serait jamais rentré s'il n'y avait pas Pénélope. Donc elle aussi, j'avais envie de montrer que ce n'est pas du tout la greluche qui attend derrière sa tapisserie pendant 20 ans. C'est pas ça du tout.
Alors la question des origines avec Hermès, le premier des migrants avec Ulysse, le labyrinthe avec Thésée. Quel a donc été, Muriel Zach, le moteur de ce feuilleton d'Artémis?
Ce que j'avais envie de montrer, c'était... qu'il n'y a pas une seule manière d'être une fille et pas une seule manière d'être un garçon. Parce que les sujets filles-garçons, c'est un petit peu important en ce moment particulièrement. Et Artémis, c'est vraiment le modèle, mais dans le bon sens du terme pour moi, de la femme libre parce qu'elle choisit sa vie en fonction de ses désirs, en fonction de ses goûts et pas des stéréotypes qu'on lui impose. Et je trouve, pour ma part, que lutter contre les stéréotypes, c'est surtout pas d'en fabriquer d'autres. C'est vraiment de montrer la liberté qu'on a de décider comment on veut être une fille, comment on veut être un garçon. Donc Artémis, elle est incroyable. Elle a pas envie d'aller habiter sur l'Olympe. Elle n'y va pas. Elle est extrêmement féminine, mais elle est pas du tout dans la séduction comme sa tante Aphrodite justement. Elle est pas dans les colifichets. Elle a une bande d'amis qui court dans les bois avec elle. Elle court plus vite que les garçons, oui, et alors? Enfin voilà, c'est magnifique. Mais ça ne l'empêche pas, par exemple, d'être aussi celle qui prend la tête du cœur des muses et de danser admirablement. Avec Artémis, ça me permettait de faire graviter toute une série de personnages qui sont complexes, parce que la vie c'est complexe et que on n'est pas obligé d'être... De se conformer à un modèle.
D'être ceci ou cela.
Voilà.
Vive l'ambivalence, d'une certaine façon.
Mais oui, bien sûr.
Vive la complexité, vive la nuance. Alors, on va écouter, Muriel Zach, un extrait d'un épisode de votre feuilleton d'Artémis, enregistré donc sur un CD qui est tout à fait...
C'est un livre numérique.
C'est un livre numérique qui est tout à fait disponible en ce moment. On va donc écouter le quatrième épisode, ce moment où Zeus... le père d'Artémis, qui est comme une déesse, faut bien le dire. Zeus, le père d'Artémis, Artémis, la sœur jumelle d'Apollon, remet des cadeaux à ses deux enfants. On écoute.
Mon fils, s'exclama Zeus en ouvrant grand ses bras. Le dieu des dieux semblait fou de bonheur. Il ne cessait d'admirer le bel enfant en caressant sa tête bouclée. « Tiens, regarde les cadeaux que je t'ai apportés, » dit-il enfin. Et il sortit de son sac une couronne brillante et la posa sur le front d'Apollon. « Je t'offre cette mitre en or, car tu seras le dieu de la lumière, le dieu qui brille. » Zeus puisa une deuxième fois dans son sac et offrit à Apollon un arc et des flèches. Le dieu des dieux se tourna alors vers Artémis. Tout sourire, il lui demanda « Et toi, ma petite fille, que voudrais-tu comme cadeau ?» Artémis le regarda bien en face et répondit « Moi aussi je veux un arc, des flèches et un char. » Zeus eut l'air surpris. « Toi ? Une fille ?» À cet instant, un bruit strident se fit entendre. Quelque chose qui n'était pas un cri, pas un sifflement non plus, mais qui écorchait les oreilles. Zeus, brusquement, eut l'air affolé. « C'est encore ma femme, Héra, qui me cherche !» Se tournant vers Leto, il dit « Mieux vaut qu'Héra ne me trouve pas à tes côtés. Je file. Prends bien soin de toi, ma belle. » Puis il s'envola aussitôt vers l'Olympe. Artémis regarda son père disparaître au loin. Il ne s'était soucié que de son frère. Son tour viendrait-il un jour ?
Voilà la lecture par vous, Muriel Zach, de cette fin du quatrième épisode. Ce que vous n'avez pas dit à la fin de ce quatrième épisode qu'on vient d'entendre, c'est le « à suivre ». Parce que, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que c'est effectivement 100 épisodes, la mythologie grecque en 100 épisodes, avec une façon d'écrire qui laisse vivre le suspense. Dites donc, vous êtes amatrice de série, est-ce que vous vous êtes inspirée de l'écriture avec le cliffhanger final « à suivre » au moment où on a envie que ça continue ? C'est une façon de happer vos lecteurs également.
Alors, en fait, non, ça vient pas de là, pas du tout même. Ça vient plutôt de. Alors, quand j'étais petite, je regardais aussi quelques feuilletons à la télévision.
Oui, on appelait ça des feuilletons.
Voilà, on appelait ça des feuilletons. Et j'aimais bien ce moment où ça s'arrêtait dans ce suspense et où, du coup, d'ici à la semaine suivante, j'avais le temps d'imaginer. Voyez ce qui allait se passer. Mais je pense que ce goût-là vient plutôt de mes goûts littéraires pour des romanciers qui, en fait, écrivaient dans les feuilletons, vous savez, dans la presse écrite. C'est-à-dire, ils publiaient un épisode et puis, ben, pour que le lecteur rachète le journal, c'était écrit comme ça. Alors, Les Mystères de Paris, Gensu, mais aussi Zola, Balzac, enfin, tous ces grands romanciers qui moi, me nourrissent, ils écrivent comme ça. Et donc, ils savent ménager ce suspense au moment où vous tournez la page, où vous changez de chapitre. Donc j'ai toujours eu envie d'écrire de cette manière-là. Aussi parce que je trouve que la moindre des politesses qu'on doit à nos lecteurs, c'est de leur donner envie de continuer. Alors là, effectivement, j'ai particulièrement travaillé ça avec un certain plaisir, parce que
ça, on le sent. Effectivement.
Vous savez, le soir,
le plaisir
vers
de la fin de l'épisode et vers le suivant,
vers l'heure où on entend, où j'imagine que c'est l'heure où les parents lisent aux enfants, ou bien dans les classes, quand j'entends mes oreilles qui sifflent, oh, quand les enfants disent oh non, encore un, oh non, encore un, après le à suivre. Mais c'est aussi une manière de leur laisser la part à l'imagination, parce que finalement, tout va tellement vite dans ce monde-là pour les enfants. Là, ça s'arrête sur un suspense et ils ont la place de se demander ce qui va se passer. Donc, c'est une boîte à imaginaire, le feuilleton et le suspense.
Mais c'est aussi donc une revendication de votre part d'écriture, en tout cas.
Oui.
Quels sont les écueils, Muriel Zach, quand on écrit le feuilleton d'Artémis, le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton d'Hermès, c'est-à-dire la mythologie grecque en 100 épisodes, texte vieux de plusieurs milliers d'années, de quelques 3000 ans, volonté de votre part peut-être de le rendre accessible aux enfants d'aujourd'hui, mais sans doute des choses à éviter.
Il faut déjà, je crois, ce ne sont pas des recettes à appliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas des trucs. De se dire, bon, allez, qu'est-ce que je vais chercher comme... C'est pas comme une recette de cuisine, vous voyez. C'est plutôt se laisser habiter à l'intérieur par les personnages, par leur puissance, par leur caractère. Et donc, à chaque épisode, je dois moi aussi me surprendre. Je dois pleurer si Artémis pleure, me mettre en colère si elle se met en colère contre son père.
Et Dieu sait si elle est colérique, Artémis.
Oui, oui. Elle a un caractère fort. Elle se met souvent en colère, mais pas colérique. Elle est coléreuse.
Ah, si vous voulez, elle est coléreuse.
Franchement, ça le vaut, ses colères.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis, peut-être aussi, il a fallu vite me débarrasser de quelque chose au tout début, c'est de se dire il y aurait comme des tables de la loi, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ça avec telle ou telle histoire, mais si, on peut tout faire avec les mythes, du moment que ça a une cohérence intérieure.
L'auteur des livres à succès, la mythologie grecque, en 100 épisodes, est avec nous, Muriel Zach, ce matin. Le feuilleton d'Artémis vient de paraître chez Bayard Jeunesse. À propos de Bayard Jeunesse, Muriel Zach, vous avez longtemps été la rédactrice en chef de trois mensuels de la petite enfance chez Bayard, Popitre à la lire les belles histoires. Vous êtes aussi éditrice pour la jeunesse. D'où ça vous vient? Alors, non pas cette passion pour la mythologie, mais cette passion, cette fois, pour la transmission.
Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, moi, de rencontrer des livres et des magazines, d'ailleurs, jeunesse, puisque j'ai dû être abonnée au premier numéro d'Okapi il y a quand même très longtemps. Je sais et je sens, et j'ai toujours senti que ça me nourrissait, que ça m'aidait à sans doute à grandir. Et j'ai tellement trouvé ça formidable que quand j'ai voulu être journaliste, vous savez qu'avant d'être journaliste politique, j'ai travaillé longtemps à l'événement du jeudi, je voulais être journaliste pour la jeunesse. J'ai travaillé presque par défaut pour les adultes. Et pour les livres, c'est pareil. Quand j'ai commencé mon premier roman, sorti en 1999, au Seuil Jeunesse, c'était une évidence pour moi que je voulais m'adresser aux jeunes.
C'était un lourd silence ?
Oui, c'était un lourd silence. Et je pense que, d'abord, je crois que la littérature de jeunesse, quand un bon livre pour la jeunesse, c'est un bon livre tout court et donc il plaît aussi aux adultes. L'inverse n'est pas vrai.
Ah bah c'est ce que j'allais vous demander. L'inverse n'est pas vrai ?
Mais non, l'inverse n'est pas vrai. Vous avez des très bons...
C'est pourtant récent, la littérature pour jeunesse. Elle s'est considérablement développée ces dernières années. On dirait presque un filon commercial.
Mais justement, le problème, c'est que je trouve que la littérature générale le regarde un peu comme un filon, comme vous dites, comme une niche, alors qu'en fait, si on prend le temps d'entrer dans les livres magnifiques qui sont et de qualité littéraire remarquable, qui sont publiés dans ce monde-là, il y a de tout, hein, comme dans la littérature générale, bien sûr. Bien, on s'aperçoit en fait qu'il y a une inventivité, je trouve, dans cette littérature. Et moi, je connais de plus en plus d'adultes qui se régalent des romans pour les adolescents, comme on dit. Et moi, j'ai un public de tous les âges. J'ai beaucoup de gens qui me l'achètent pour eux, pour les adultes, voyez. Donc, simplement s'adresser aux jeunes, c'est aussi peut-être s'adresser à l'avenir. Vous disiez que j'étais éditrice, je dirige une collection qui s'appelle Ceux qui ont dit non, chez Actes Sud Junior.
Ah, c'est aussi un fil, ça. Donc, c'est l'engagement, c'est l'histoire, cette fois avec un grand H, puisque vous rappeliez, Muriel Zach, votre premier roman, Un lourd silence, qui était sur la collaboration, L'expulsion, qui était un deuxième roman sur l'arrestation de familles étrangères, et cette collection, donc, Ceux qui ont dit non. Ça aussi, c'est un fil.
Oui, c'est un fil... 10 ans de romans pour montrer des grandes figures qui ont dit non. Alors vous avez les personnages connus comme Nelson Mandela ou Rosa Parks, et puis peut-être d'autres plus récemment. Là, on vient de sortir un Primo Levi, Non à l'oubli.
George Sand,
Non aux préjugés. Angela Davis, Non à l'oppression. Matou Blounès, Non au fou de Dieu. Voyez, ce sont des grandes figures qui ont le courage de dire non sur des sujets qui nous concernent encore aujourd'hui, pour montrer aux jeunes là aussi. Eh bien, qu'on a raison de dire non, que la colère peut être productive, surtout pour défendre des valeurs. Eux, ils ont dit non à des choses qui leur paraissaient inacceptables. Et ce sont des combats qui méritent encore aujourd'hui qu'on se batte.
Vous avez remarqué que vous construisez votre collection Ceux qui ont dit non de la même façon que la mythologie grecque en 100 épisodes, c'est-à-dire la rencontre d'un personnage et d'une thématique.
Eh bien oui, vous avez raison. Mais je dirige aussi une collection qui s'appelle Poésie idéale, aux éditions Bruno Doucet. Eh bien, on est dans la même veine, c'est-à-dire que ce sont les poètes, cette fois, qui se battent avec leurs mots. Vous voyez, ça, le dernier titre, c'est Passagers d'exil, chant du métissage, contre le racisme, ou vive la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je crois que les poètes, les écrivains, les mots, ce sont nos armes de combat pour dire aussi que ce monde-là, il serait peut-être bien de le modifier par moment, qu'on a raison de ne pas le prendre tel qu'il est. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi je m'adresse aux jeunes, parce que eux, c'est eux qui vont faire le monde de demain.
Et c'est aussi une affirmation, une revendication justement de l'écrit face à l'image. Est-ce que c'est un peu plus difficile aujourd'hui, Muriel Zach, de continuer à défendre cet écrit, ce plaisir de lire dont on dit souvent qu'il se perd chez les jeunes, en tous les cas à un âge bien précis qui est le milieu de l'adolescence, avant peut-être de revenir, mais encore faut-il qu'il l'ait eu avant de passer à l'adolescence. Donc est-ce que c'est plus difficile dans un monde d'images de défendre et de revendiquer ce plaisir de lire et de le transmettre?
Alors je vais peut-être vous surprendre, mais non, moi je ne trouve pas.
C'était une question ouverte.
Non, je pense que justement, si on fait son métier si on ne leur propose pas des produits, si on n'est pas en train de faire du marketing et du packaging en publiant des livres pour les enfants et des livres pour les adolescents, c'est-à-dire que si on va vraiment au fond de ce que la littérature peut proposer, non seulement un voyage, mais en fait des figures d'empathie. Enfin, vous voyez, au fond, comment on va lutter contre la barbarie si ce n'est pas en développant l'empathie chez les jeunes? Il faut leur proposer des figures de projection, il faut leur donner des espaces pour eux exister avec ces textes-là. Moi, je trouve que... Non, je trouve pas que ça soit si difficile. Il faut juste, j'allais dire, mouiller sa chemise et y aller.
Et parfois dire oui, peut-être, et pas seulement non.
Ah, mais derrière chaque non, il y a un oui.
C'est ça. Et oui, en particulier, à la musique que vous avez choisi de nous faire entendre, Muriel Zach, pour terminer. Retour en Grèce, bien évidemment. Un mot sur Haris Alexiou?
Haris Alexiou, elle m'accompagne tous les jours quand j'écris mes feuilletons. C'est la plus grande chanteuse contemporaine grecque, je crois, et c'est intimement lié à mon écriture.
Alors on écoute quelques notes d'Haris Alexiou.
Το χρυσό μπουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε είναι θέλει να ξεχωρίζει από όλους μες στα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλοι και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν την εφέλη να την ταΐζουν ρόδι και μέλι. Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Κινδύ και τρίνα τις κλέψαν το άρωμα και το φοράνε κι οι έρωτες πετώντας αϊτιές την περίγενου.
Une histoire de nymphe, une histoire mythologique qui reboucle la boucle avec votre mythologie grecque en 100 épisodes. Je rappelle le titre de ce dernier feuilleton d'Artémis Muriel Zach aux éditions Bayard Jeunesse. Et évidemment, vous le signez puisqu'il y a toujours des illustrations dans vos feuilletons mythologiques avec Olivia Sautreuil cette fois pour les dessins. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans les matins du samedi et bon week-end à vous.
Merci à vous.